With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre la mécanique du corps, à améliorer votre pratique sportive, à combattre vos douleurs et blessures, et qui vous permet de découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle d'entraînement, de performance, de nutrition, de thérapie et tout ce qui touche de plus de loin à la santé, avec des invités exceptionnels. À chacun des épisodes, je m'appelle Jérôme Cazerol, je suis ostéopathe à Montréal, et je reçois sur le podcast pour cet épisode Jordan Belloun-Joly, qui est diététicien nutritionniste et passionné de musculation et de culture physique. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais reçu dans l'épisode 17 Ersoviak, le gagnant du YouTube classique de Lucas Guif. Il se trouve que Jordan avait justement participé à cette compétition et avait terminé second. Il suffit de faire un tour sur son Instagram ou même sur sa chaîne YouTube pour voir ce que représente un physique esthétique, harmonieux, ainsi que tout le rôle d'un bon posing pour le mettre en valeur. On repart donc aujourd'hui dans les tréfonds de la musculation et de la culture physique. On verra comment Jordan organise son emploi du temps entre son métier de nutritionniste diététicien et la pratique du bodybuilding. Est-ce que cette pratique représente pour lui, au-delà de la simple culture physique? Il nous expliquera les différences entre un médecin nutritionniste, un diététicien nutritionniste et le nutritionniste. On va aborder les grandes questions de l'alimentation, les bases de la prise de muscle, de la perte de gras, comment sécher pour une compétition et les différences avec un régime classique pour perdre du poids. Est-il possible de bloquer son métabolisme? Quel est l'impact de la qualité sur un physique? Ce sont tous les thèmes qu'on va aborder au cours de l'épisode. Sans plus attendre, voici ma conversation avec Jordan et on se retrouve en fin d'épisode. Bienvenue sur le podcast, Jordan. Je suis très content. Je suis toujours très content d'accueillir des nouveaux invités. Mais on va pouvoir se plonger aujourd'hui dans les tréfonds du bodybuilding, un sujet dont parfois je m'écarte un petit peu, qui était à l'origine mon souhait là, de développer l'entraînement, la musculation. C'était un peu mon truc dans les premiers épisodes du podcast. Je m'en suis un petit peu éloigné. J'ai abordé différentes sphères, mais aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir s'amuser autour de ces grands thèmes. Donc, bienvenue à toi déjà.
Ben, merci Jérôme, et puis bonjour à toutes les personnes qui prennent un petit peu de temps pour nous écouter aujourd'hui, et puis j'espère qu'ils pourront tirer un peu de vertu de ce partage d'informations.
Ouais, j'espère aussi, je pense que ça sera le cas. Comme à l'accoutumée, ma première question, comment s'est passé ton tout premier entraînement de bodybuilding, de musculation? Tu vas me dire comment tu préfères qu'on appelle ça, dans une salle. Ton premier souvenir.
D'accord, donc te décrire un petit peu, comment veux-tu que je te décrive ça? Plutôt les sensations, dans quel contexte c'était, l'âge et autres, qu'est-ce que tu as d'attendre de cette question?
Ouais, quel contexte, comment tu as vécu ça? Est-ce que ça a été un déclic pour toi, ce sport? Est-ce que déjà tu appelles ça un sport, tu appelles ça une activité? Comment tu aimerais le définir?
D'accord. Alors, je vais essayer d'être assez concis, que j'ai tendance à m'éparpiller. Moi, je vais plutôt appeler ça la culture physique maintenant, avec un peu plus de recul. J'aime plutôt cette expression et j'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Il y a carrément pour moi une différence entre ce qu'on peut appeler aujourd'hui bodybuilding et la culture physique au niveau de l'aspect psychologique et de l'idéologie qu'il y a autour également. Premier entraînement, 19 ans, je pense, les vacances d'été, une vieille salle old school, enfin, qui était une vieille salle basique à l'époque, mais qu'on pourrait considérer comme old school maintenant, au bord de plage, avec que des mecs au-dessus de 50-60 ans, avec les vieilles barres qui n'étaient pas des barres olympiques. Donc j'ai découvert un petit peu l'environnement de la salle de musculation comme ça. À la base, j'ai découvert ça totalement par hasard. En fait, j'ai toujours été attiré par ce côté muscle saillant dans les Rambo, dans les Rocky, que je regardais beaucoup quand j'avais 14-15 ans. Mais il y avait une part de moi qui se refuser à se dire que c'était lié à la musculation. Pourquoi ? Parce que je rêvais pour moi que Stallone il se soit forgé ce physique avec de la boxe anglaise, de la natation et autres. Et j'avais du mal à créer le lien avec le fait de soulever des poids parce que, un petit peu comme les a priori que les gens peuvent avoir aujourd'hui, j'étais là, ouais, ça fait un peu gonflette, j'ai pas envie de faire un truc qui n'a pas d'utilité pseudo-fonctionnelle. En tout cas, c'est un peu l'idéologie que j'avais à l'époque. Je me suis inscrit, je vais commencer à m'entraîner, et puis ben, petit à petit, c'est lié vraiment une passion autour de ce développement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que plus j'offrais à ce sport, parce que oui, je considère ça comme un sport, et en tout cas, je l'ai considéré comme un sport pendant des années. Maintenant, c'est bien au-delà, mais ça, on y reviendra. Plus j'offrais à ce sport et plus je recevais en retour. Et j'ai trouvé ça absolument génial parce qu'en fait, au fur et à mesure des années, je me suis pris au jeu, j'ai commencé à faire attention à l'ensemble des éléments et des piliers qui permettent de se construire un physique. Et ça m'a permis une progression crescendo qui est à mon niveau satisfaisante. Et puis je continue à progresser, je suis très heureux de cela. Et voilà, en fait, je me suis fait un petit peu prendre dans le circuit et puis petit à petit, la passion est arrivée et je n'ai fait que la cultiver de plus en plus. Elle a évolué au fil des années. Me voilà rendu aujourd'hui à 27 ans, donc tu vois, 8 ans plus tard, et puis toujours aussi passionné et avec pas mal d'ambition dans cette activité physique.
Et t'as une bonne idée d'ailleurs de rappeler que la musculation en tant que telle a été souvent considérée comme non fonctionnelle en fait, qu'elle n'avait pas réellement d'intérêt si ce n'est que faire de la gonflette, comme on pourrait l'appeler. Et je dirais que c'est encore le cas, je pense, pour beaucoup de monde. Parce que, alors certes, le fitness a explosé, certes, les salles de sport ont ouvert et puis ont poussé comme des champignons un petit peu partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis, enfin, un peu partout dans le monde finalement. Mais c'est de mieux en mieux sur l'idée. Mais il y a encore, je pense, pas mal de personnes qui ont du mal, et surtout les non-pratiquants, en fait, qui n'ont quasiment aucun lien avec le fait de s'entraîner dans une salle de sport, pensent encore qu'il n'y a pas réellement d'intérêt, qu'on est sur de la gonflette, qu'on est que la gonf... ouais, que c'est absolument pas fonctionnel, que c'est pas un sport. Comment tu argumenterais, toi, on va partir du principe qu'il y a des auditeurs qui découvrent un peu le bodybuilding. Alors, j'ai fait des épisodes hein, auparavant, notamment avec Axel, où j'ai essayé d'en parler, tu vois. Mais qu'est-ce que tu argumenterais pour les personnes qui connaissent pas trop et qui ont encore du mal à comprendre cette histoire de soulever des poids pour faire grossir du muscle et qui disent ben c'est what's the point quoi? C'est pour parler anglais. Je veux dire, c'est quoi le but quoi? Je veux dire, pourquoi? C'est quoi? Pourquoi on fait ça?
C'est compliqué parce que c'est quelque chose de très personnel et je pense que c'est aussi dépendant des pratiquants. Je pense qu'on a tous un peu sa manière. Alors là, il y en a qui vont peut-être qu'ils vont s'énerver en écoutant ça, mais pour moi, il y a beaucoup de facettes, il y a beaucoup de moyens et de manières de voir la culture physique, le bodybuilding, la musculation. Déjà, bien entendu, que c'est un sport à partir du moment où on va chercher un certain dépassement soi, une certaine limite. Le but, c'est quand même d'aller chercher certaines limites, que ce soit au niveau de la force, au niveau du temps sous tension, etc. Donc, il y a un réel défi physique derrière cela. Donc, bien entendu, on n'est pas forcément sur de l'exercice, tu vois. Cardiovasculaire ou avec des fibres lentes, mais plutôt sur la fibre rapide, de la force ou autre. Mais ça reste une activité qui est très, très engageante et surtout qui permet d'obtenir un métabolisme assez intéressant. Pourquoi? Parce que, bien entendu, la masse maigre, on sait que c'est la plus grosse machine à brûler des calories sur le corps. Donc, forcément, plus on développe sa masse maigre, plus on a un corps qui a un métabolisme qui fonctionne bien, en tout cas dans l'idée. Après, malheureusement, dans une majorité, vu les dégâts que les pratiquants accusent sur leur corps au niveau de nutrition, de produits anabolisants ou autres, ben, le métabolisme, c'est pas toujours ça, ou de diète beaucoup trop drastique. Mais enfin bon, pour revenir à la question originelle, ce que je commençais à m'éparpiller, il faut vraiment voir ça. Pour moi, c'est plutôt le développement d'un état d'esprit autour de la culture physique. C'est-à-dire qu'il y a un côté narcissique au bodybuilding, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on travaille autour de son image. Le problème, c'est que les gens ont tendance à voir ça comme quelque chose d'égocentrique, alors que il y a une grosse différence entre le narcissisme et l'égocentrisme. Et à partir du moment où on n'a pas un narcissisme qui est poussé à l'extrême et qui fait que l'on ne voit plus que soi et qu'on est carrément égocentrique et totalement fermé aux autres, là, ça en devient vachement malsain. Alors que, au contraire, la culture physique, en tout cas dans son idée de base, dans son idée vertueuse, c'est de comprendre que quand on s'intéresse à son corps, quand on apprend à s'écouter, quand on cherche à se développer, en fait, on peut investir du temps, investir de l'énergie pour quelque chose qui va vous donner du retour positif. C'est une meilleure santé, un meilleur mental, une compréhension du fait qu'on peut dépasser des paliers, dépasser des étapes, donc casser des barrières que l'on avait avant, que ce soit au niveau des charges, au niveau d'un galbe musculaire. Et ça, en fait, c'est ouvrir la porte à des ambitions qui sont bien plus grandes, et pas uniquement pour le physique, mais bien pour le mental. Parce qu'à partir du moment où on comprend que quand on investit du temps et de l'énergie dans quelque chose, et qu'on voit des variations, qu'on voit du changement, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer sur sa carrière professionnelle, sur ses études, sur peu importe, si vous voulez, le domaine de base? En fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de prendre une vraie confiance dans mes capacités, dans le fait d'aller chercher plus loin. Et pour moi, chaque entraînement, c'est déjà un moyen de me libérer d'un côté, un moyen aussi, un temps pour moi, parce que maintenant j'ai une vie où je suis assez actif en milieu professionnel et autres. Et la plupart du temps, on est complètement déconnecté de notre corps et de l'écoute de soi. Et pour moi, c'est vraiment chaque entraînement, c'est une reconnexion à moi, c'est un temps pour moi. Et ça me permet d'avoir un réel équilibre psychologique, de me sentir bien dans ma peau. Et honnêtement, c'est ce que je peux souhaiter à tout le monde. Et pas forcément, enfin, c'est pas obligé de passer par la culture physique, ça peut passer par n'importe quoi, une évasion, une passion, un sport, une activité annexe, de la peinture, de l'art, peu importe. Mais c'est vraiment quelque chose qui permet de, en fait, ben, de se développer, de se développer aussi bien physiquement, psychologiquement. Et pour moi, ça m'a apporté que du positif dans ma vie. Je pense que ce sport, malheureusement, ou cette activité, cet art, parce que pour moi c'est même un art, est bien trop vite catalogué, et juste ben, les gens qui connaissent pas. Déjà, peut-être, j'espère qu'avec ces quelques mots, j'aurais pu leur donner envie de s'intéresser à une autre vision de la culture physique. Mais c'est de comprendre que c'est vraiment un moyen de se libérer, un moyen de s'exprimer. Voilà, c'est l'expression non verbale, hein, bien sûr, hein, par son corps, par une dynamique physique. Et voilà, c'est quelque chose de très spécial, et peut-être que j'ai perdu un peu tout le monde, mais pour essayer de mettre des mots comme ça, c'est comme ça que je le décrirais.
Ouais, moi, tu m'as pas perdu du tout, et justement, ça m'a donné envie aussi de faire le lien entre le côté très vers soi, l'idée de se faire du bien, l'idée tu disais, d'être connecté avec soi. Tu vois, on pourrait faire une espèce de parallèle sur la méditation. Je ne pratique plus la méditation, mais par contre, je remarque que lorsque je vais dans une salle de sport, lorsque je vais faire mon entraînement, je ne suis pas un bodybuilder, je n'ai rien de quelqu'un qui a une culture physique incroyable. En revanche, moi, j'adore aller en salle de sport, j'adore toutes les idées que tu as eues, que tu as évoquées là et que tu as voulu faire passer, moi, je m'y reconnais. Et à chaque fois que je fais une séance d'entraînement, j'ai l'impression d'être dans une sorte de méditation aussi. Je rejoins cette idée de connexion avec soi-même, et j'ai aussi une impression que les pratiquants passionnés de musculation, de culture physique, de bodybuilding, bon, on appelle ça comme on veut, sont ceux qui se connaissent le mieux et peut-être. Alors, bon, il y a d'autres sports, hein, il y a d'autres sports, je ne fais pas de discrimination, mais j'ai l'impression que les pratiquants de musculation, passionnés qui en font depuis longtemps, sont les personnes qui à la fois se connaissent le mieux et à la fois connaissent le mieux le corps humain. Parce que si tu veux mettre toutes les chances, tous les progrès de ton côté, et essayer de faire les choses bien, sans te blesser, il va falloir que tu te renseignes un minimum en anatomie, parce que si tu développes du muscle, il faut savoir quel muscle tu le développes, et pour savoir quel muscle, c'est bien de savoir où c'est qu'il se trouve, comment il fonctionne, et dans quel angle il va être travaillé. Tu te renseignes aussi, tu te passionnes sur la nutrition, parce qu'on sait très bien que tu ne peux pas forger un corps esthétique. On pourra revenir sur ce que c'est qu'un corps esthétique, ou en tout cas un corps volumineux, enfin musculeux, sans passer par la compréhension de ce qu'est qu'une protéine, un glucide, un lipide. Donc ça demande à s'intéresser à la physiologie, à l'anatomie, à comment, au repos, à la. Alors, quand je dis la physiologie, il y a aussi qu'est-ce qu'une fibre musculaire, sans tomber dans le truc anatomiste où tu vas pouvoir décrire l'actine, la myosine, les trucs. Mais déjà, qu'est-ce que. Voilà, un tendon, un muscle, une articulation, la nutrition, le développement, l'hypertrophie, comment ça fonctionne, tout ça. Et ce sont souvent des personnes qui ont quand même une grande connaissance du corps, enfin une connaissance du corps humain assez poussée. De toute façon, il n'y a qu'à voir, sans tomber jusque-là, mais même les plus grands préparateurs physiques, chimistes, entre guillemets, donc qui ne font pas que des programmes alimentaires, sont aussi des personnes qui ont une très grande connaissance de l'endocrinologie, sans forcément être des médecins, hein. Mais qui ont quand même des bases solides sur l'endocrino, sur la physiologie, etc., quoi.
Oui, bah ça, après, en effet, je te rejoins sur l'idée que le pratiquant de musculation ou l'adepte, le passionné de culture physique, a une grosse connexion avec soi. Et bien entendu, comment dire, tu vas, enfin, quand tu cherches à te développer, tu vas naturellement prendre des infos un peu partout autour de toi et très rapidement tu comprends qu'il y a des piliers essentiels sur la nutrition, sur l'entraînement, sur les différentes phases de récupération. Et du coup, ben, forcément, par passion, tu te renseignes, tu cherches. Après, le problème actuel, hein, enfin, c'est pas vraiment un problème, hein, mais c'est vraiment une réflexion, et puis j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus, vu que tu as une approche peut-être un peu plus scientifique, c'est qu'actuellement, je trouve que les gens se basent un peu trop sur le scientifique et en oublient la sensation et l'écoute de soi, justement. Et pour la culture physique, peut-être pas pour le bodybuilding, mais pour la culture physique, c'est là où la différence est subtile. Ça pose un problème parce que avant tout, c'est une notion d'instinct, c'est une notion de plaisir, c'est une notion. En fait, c'est mélangé autour de tout ça avec bien entendu des connaissances scientifiques et du ressenti d'avoir cette croissance musculaire, d'avoir cette sensation, ce qu'on appelle la congestion, le pump, etc., et de l'apprécier et justement, bah, d'avoir un plan relativement travaillé par rapport à la fréquence de stimulation des muscles, au nombre de séries, aux sous-tensions, mais avec un certain détachement, c'est-à-dire qu'on a notion de tout ça, mais on laisse une place à l'instinct qui est absolument énorme là-dessus, et pour la nutrition également. Alors qu'aujourd'hui, on va chercher à avoir absolument de tout, de extrêmement millimétré au niveau de l'alimentation. On va chercher à avoir des entraînements qui sont au niveau des positionnements, au niveau du câble ou du poids libre, de tension, des choses extrêmement réfléchies, extrêmement poussées. Et la réalité, c'est que même si en effet les études montrent que physiologiquement c'est les choses les plus intéressantes possibles, sur la réalité des choses, les mecs de la Silver ou de la Golden Era qui sont pour moi une égérie. Et un âge d'or vraiment de la culture physique, qui n'avaient pas forcément ces notions-là, même s'ils étaient déjà très très à l'écoute de leur corps et très comment dire instruits au niveau physionomie de l'époque, ils sortaient des physiques et des conditions et des mentales qui étaient pour moi plus intéressants que ce qu'on voit à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui on a 100 fois plus de connaissances en nutrition, 100 fois plus de connaissances sur la chimie, 100 fois plus de connaissances sur la physiologie de chaque exercice et comment il faut le faire, etc. Au final, vu qu'on a oublié cette part d'instinct assez importante et de passion et de dépassement de soi, on se retrouve avec des corps qui sont principalement sous chimie, avec des physiques qui sont pour moi bien moins élégants, artistiques et agréables à voir que l'on pouvait voir à l'époque, et avec des gens au final qui travaillent aux machines guidées et qui n'ont pas qui ont des grosses masses musculaires, mais des conditions physiques peut-être pas si bonnes qu'elles pouvaient l'être.
Et je te rejoins, non, je te rejoins là-dessus, ouais. J'ai pas une approche scientifique. Si tu veux, la seule approche scientifique que je vais avoir, elle va être surtout orientée sur un peu de la mécanique du corps. Bon, c'est d'où l'origine aussi un peu le nom du podcast, sur la compréhension, une certaine compréhension de la mécanique du corps, de la biologie, mais très simple. Effectivement, à partir d'un certain niveau, ça n'a plus grand intérêt. Et j'en parlais, c'était aussi avec Olivier Bollier sur la préparation physique. C'est que à partir de quand il faut commencer à, pour dire grossièrement les choses, enculer les mouches, quoi. C'est quand on est sur de l'angle, qu'on va chercher un détail, ça n'a plus aucun sens. Sauf si on utilise peut-être des aides qui vont avoir du sens par rapport à ça. Mais quelqu'un de naturel qui s'entraîne n'a pas besoin de connaître. Je vais peut-être rétro-bédaler par rapport à ce que je dis, mais n'a pas besoin de connaître absolument la physiologie, d'avoir fait des études, de connaître exactement le cycle de Krebs, etc., pour savoir comment est fournie l'énergie, etc. À partir d'un certain moment, c'est sûr que ça n'a pas grand intérêt à part se prendre la tête sur des détails qui, de toute façon, ne changeront rien. Donc, tu as entièrement raison de recadrer le truc sur la pratique, sur l'instinct et sur un peu moins le détail qui n'aura que très peu d'importance au final sur le résultat. Et toi, alors, bon, toi, ton métier, c'est
Alors moi je suis diététicien.
nutritionniste. Diététicien. Alors déjà, est-ce qu'on pourrait peut-être faire une petite distinction entre nutritionniste et diététicien pour que ça soit clair pour tout le
Alors
monde?
je te le fais rapidement. Alors le titre complet c'est diététicien nutritionniste. Je vais te le faire très rapidement. En fait, pourquoi on est nommé diététicien nutritionniste? Parce qu'il y a une concurrence relativement déloyale dans le sens où tu as le diététicien nutritionniste, donc qui est issu en général d'un soit d'un DUT en biologie, donc enfin, sur l'alimentation, soit d'un BTS diététique, donc c'est des études qui prennent 2 ans, c'est assez rapide, où tu peux faire des diplômes universitaires derrière. Moi, je l'ai fait sur l'alimentation du sportif. Après, tu as le médecin nutritionniste, C'est un médecin donc qui a son nombre d'années d'études en médecine et qui fait une spécialisation en nutrition qui dure quelques mois, je me souviens plus le nombre exact de mois, sur de la nutrition. Et ensuite, tu as le nutritionniste qui n'a aucun diplôme, qui n'est personne, qui n'a aucune reconnaissance, qui n'est pas un professionnel de santé, que tu ne trouveras ni en milieu hospitalier, ni sur des agences liées à la santé en France, en tout cas. Donc voilà, malheureusement, on voit même à la télé à l'heure actuelle des nutritionnistes. Alors, on voit écrit nutritionniste, mais je peux vous dire à ceux qui écoutent que si c'était un médecin, il y aurait écrit médecin avant d'avoir écrit nutritionniste, sinon médecin nutritionniste. Mais donc ces gens-là sont là. Ils vous racontent des choses, mais ils n'ont aucun bagage, en tout cas reconnu au niveau de l'État. Donc c'est relativement scandaleux. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve, donc bon, ça permet de lever un peu ma voix pour mes collègues diététiciens vis-à-vis de ça. En tout cas, s'il y a bien des professionnels de la santé sur lesquels vous pouvez avoir confiance et qui ont un background, c'est vraiment le médecin nutritionniste et le diététicien. Et le diététicien est celui qui a eu le plus d'études sur l'alimentation, sur l'étude des régimes et autres. Même plus que le médecin, parce que même s'ils ont un bagage physiologique qui est astronomique à côté du nôtre, par contre, ils n'ont que quelques mois de cours sur les aliments et la nutrition, qui représentent bien moins que nous, notre cursus en 2 ans.
Ok, bon, on va pouvoir revenir sur l'entraînement, le bodybuilding après, hein, on va pas lâcher ça, mais pour rester là, parce que ça m'intéresse un peu là, cette histoire de diététicien nutritionniste, médecin nutritionniste, donc on a bien vu les deux diplômes, enfin la distinction entre les deux. On va pas prendre en compte le nutritionniste qui devrait ne pas exister selon toi, en tout cas qu'il n'y a pas de. N'est pas reconnu quoi, n'importe qui
Voilà,
pourrait se
après, ça
prétendre
peut être quelqu'un
nutritionniste.
d'extrêmement compétent si c'est un passionné qui lit beaucoup, qui se remet en question. Ça, c'est pas la question, mais après, malheureusement, c'est vrai qu'on voit
Mais
tellement
ouais.
de gens qui pullulent un peu partout en s'annonçant des titres alors que ça vaut rien du tout. C'est vrai que c'est un peu, il y a un côté frustrant.
Non mais je comprends, c'est un peu comme il
C'est
y a quelques
comme
années,
les gens
c'était
qui
plus
vendent
trop le
des
cas.
programmes alors qu'ils sont pas coach ou ce genre de choses. Enfin, tu vois, des fois, c'est un peu. Bon. Après,
C'est
c'est
ça, c'est
difficile.
ça. C'est qu'il peut y avoir des compétents, mais en fait,
Et
bon, pas
chacun son
forcément.
travail,
Et
tu vois.
c'est pas
Après, c'est
forcément.
aussi prendre le travail de gens qui ont pris leurs études pour ça. Enfin, bref, après, c'est un sujet complexe, on va pas aller là-dedans, mais t'as compris mon avis.
Ouais, mais je te rejoins parce que c'était un petit peu le cas aussi en ostéo, qui est mon activité en France il y a quelques années. Alors maintenant, ça s'est régularisé, mais il y avait des écoles qui fournissaient le diplôme en quelques semaines, à côté d'autres, il y en avait qui fournissaient le diplôme en 5 ans. Donc il y avait, c'était hyper disparate en termes d'enseignement. Bon, ça n'a jamais été un combat personnel parce que quand j'étais très très vite, quand j'étais diplômé, tout ça a été régularisé, donc ça m'a jamais posé un problème. Je pense que ça l'a été un petit peu plus pour les générations précédentes d'ostéopathes qui, pour le coup, avaient peut-être un peu plus de mal à se faire entendre parce que il n'y avait pas de diplôme spécifique, enfin vraiment reconnu, ce qui fait qu'on savait pas lui il est bon, il est pas bon, d'où c'est qu'il sort, oui, mais les études, ça perdait en crédibilité. Donc je comprends ce que tu veux dire. Quelle est la différence entre un diététicien nutritionniste et un médecin nutritionniste? Peut-être dans leur. Alors, tu me dis donc la formation, mais est-ce qu'ils vont s'occuper de cas différents? Est-ce que par exemple, le médecin va être plus amené à avoir des cas, des problèmes de santé, enfin à régler par la nutrition des problèmes de santé avérés, diagnostiqués, là où peut-être le diététicien nutritionniste ne peut pas faire de diagnostic? Quel va être enfin, le type de clientèle, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça en France, mais quand est-ce qu'on va avoir un médecin nutritionniste ou quand est-ce qu'on va avoir un diététicien nutritionniste, tout simplement?
Bon, c'est assez spécifique. Après, en fait, ça dépend si c'est du libéral ou du milieu hospitalier. En fait, dans le milieu hospitalier, si tu veux, souvent les diététiciens sont liés avec un médecin nutritionniste. C'est-à-dire que ça peut être un médecin nutritionniste qui tient le pôle diététique, tu vois, et qui du coup va prescrire certains types d'alimentation spécifiques. Je pense à l'alimentation parentérale par le sang, donc qui sont des alimentations spécifiques qui nécessitent donc des prescriptions médicales. Et ensuite, les protocoles vont être gérés derrière par les équipes diététiques, donc par les diététiciens nutritionnistes, qui eux vont faire les totales caloriques, voire les tolérances et tout ce genre de choses. Donc souvent c'est du travail en commun. Après au niveau du libéral, je suis un peu moins rodé parce que ben je suis à mon compte pour des suivis diététiques du sportif, mais j'ai pas de cabinet physique et je j'évolue pas dans le milieu libéral après en dehors des réseaux sociaux. Donc je connais pas bien le fonctionnement des médecins nutritionnistes en libéral, s'ils font des suivis alimentaires ou pas, ou s'ils donnent des conseils de nutrition simplement dans le cadre voilà, d'une visite d'un médecin traitant ou qui va aussi gérer un peu la nutrition. J'avouerai que c'est un peu plus flou sur le côté libéral, mais dans l'idée, c'est quand même des gens qui travaillent de base ensemble.
Et toi, dans ton activité, c'est quoi que tu reçois le plus?
Alors là, dans mon activité vis-à-vis des réseaux en tant que diététicien, parce que sinon, moi, enfin, professionnellement, je suis dans l'alimentation artificielle, c'est très spécifique, je suis sur des pathologies particulières. Donc bon, là, je pense pas que ce soit forcément le sujet du podcast. On va dire que les gens qui me contactent après moi, c'est plutôt sportif, parce que bien entendu, bah, au niveau de mes réseaux sociaux, je véhicule beaucoup la
Ouais.
culture physique et la manière dont je la vois. Donc j'ai majoritairement des gens qui sont liés à la musculation également, ou qui cherchent à, voilà, à perdre du poids. C'est assez variable. En général, les thématiques, c'est soit réussir à prendre un peu plus de galbe musculaire, soit réussir à se dessiner plus, tout en conservant son muscle.
Ok, bon, et en fait, ils sont plus ou moins orientés du fait de toi, tes compétences et ce que tu mets en avant sur tes réseaux. On aura l'occasion d'en reparler justement sur un petit peu ça, comment on atteint ses objectifs grâce à la nutrition, puisque c'est ton domaine. Mais je suis quand même très curieux de savoir nutrition artificielle, qu'est-ce que c'est en fait?
Alors la nutrition
Alim ouais.
artificielle, c'est de la nutrition en fait quand quelqu'un va avoir un problème pour pouvoir s'alimenter par la bouche et que du coup on a un risque de dénutrition suite à une perte de poids rapide, fonte de la masse musculaire, risque donc de sarcopénie, etc. Ça va être de pouvoir alimenter les gens par une sonde de nutrition, donc une sonde que l'on va mettre dans le nez ou une sonde que l'on va directement placer au niveau de l'estomac. Donc la sonde dans le nez va aller jusque dans l'estomac également, hein. Et du coup on va placer des flacons de nutrition qu'on appelle artificiels, hein, donc des laits enrichis en fait, hein, ou des reconstitutions de différentes acides aminés, glucose et acides gras, pour passer de l'alimentation aux gens et les aider à conserver leur poids et à lutter contre la pathologie quand il y a des traitements. C'est beaucoup de cancers où les gens, justement, si c'est situé au niveau de la gorge ou de toute la zone ORL, vont avoir beaucoup de mal à s'alimenter. Et du coup, ben voilà, c'est une nutrition qui va être là pour permettre aux gens d'avoir les protéines nécessaires et l'énergie nécessaire pour pas perdre de poids et pour se soigner.
Et ça me fait penser à Feed, l'entreprise de poudre. En fait, il fait, je sais pas, tu connais peut-être Feed,
Alors,
je me trompe
feed,
pas de
pour
nom?
moi, c'est des petites bouteilles à boire pour changer les, pour
Ouais.
remplacer un repas.
Ouais, alors bon, on n'est pas sur la... Enfin, ça ressemblerait à la nutrition artificielle au final.
Alors non, parce que de la nutrition artificielle, c'est quelque chose qui va passer par une sonde, donc c'est vraiment spécifique. C'est un
Ah,
produit
ok.
hospitalier que tu peux pas trouver en grande surface. Feed, c'est l'idée de, plutôt que de manger quelque chose de solide, de remplacer, de se dire, ok, leur marketing, c'est les gens sont pressés, ils ont pas le temps, donc il y a tout ce qu'il faut dans un petit shaker à boire en fait, hein, qui va composer un repas directement à boire par la bouche en 30 minutes ou en 15 minutes. Ce qui du coup déconnecte complètement de l'idée d'un repas, de quelque chose de solide, de vraie sensation alimentaire, donc quelque chose d'utilisé avec parcimonie, j'ai envie de dire, quoi.
Et c'est quoi ton avis sur ça?
Je suis pas fan du tout. Je suis pas fan du tout parce que ça déconnecte les gens encore plus de l'alimentation et c'est déjà un sujet relativement compliqué. Les gens s'éloignent de plus en plus de l'alimentation. On est dans des générations où tout doit être fait rapidement, où ce sont des préparations toutes faites la plupart du temps. Les gens ne font plus forcément à manger et là, c'est la dernière étape. Avant la barre, comme dans le film, je sais plus lequel c'est, la barre d'insectes écrasés où il y aura tout ce qu'il faut en protéines et puis voilà, on s'alimentera plus que comme ça. En fait, c'est vraiment. En plus, déjà la composition. Enfin, j'espère que maintenant ils ont évolué, mais à l'époque c'était relativement catastrophique. C'est-à-dire que c'était pas du tout une bonne répartition au niveau de ce qui était mis à l'intérieur. Et voilà, en fait, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas de l'alimentation clairement. Ça peut dépanner et c'est pratique, mais il faut que ça reste exceptionnel et il faut que les gens apprennent à faire un peu plus à manger et prennent le plaisir de faire à manger et de manger.
Et ouais, parce que j'imagine que si tu consommes régulièrement ce genre de produit, ton estomac rétrécit aussi, puisque si tu ne lui mets plus d'alimentation, de volume, si t'as plus de volume alimentaire, ton estomac n'a plus besoin, enfin, va se rétrécir. C'est un truc qui est connu d'ailleurs dans les régimes, ceux qui mangent de moins en moins ont l'estomac qui rétrécit, et ensuite, quand il faut remanger normalement, des fois ils ont des petites lourdeurs. Et inversement, hein, des personnes qui ont l'habitude de manger beaucoup, on pense au surpoids, à l'obésité, ils ont distendu leur estomac et qui pour le coup, cherchent toujours à être remplis. Donc, surtout, corrige-moi si je me trompe, mais je pense qu'on est... Et puis il y a aussi l'histoire de la mastication qui est très importante. Si tu fais que manger, enfin que boire tes repas, tu n'as plus ce phénomène de mastication. Il n'y a plus la préparation de l'estomac ou même du tout le tube digestif aux enzymes, etc., qui vont préparer la digestion. En fait, tu dérègles un peu ton organisme au final.
Ah oui, bien sûr, bah oui, déjà, en effet, comme tu disais, il y a l'amylase salivaire, donc des enzymes qui commencent la digestion qui du coup ne sont pas forcément actives. Et surtout, bah, l'effet de satiété, c'est-à-dire que quand on boit quelque chose, la satiété n'est pas du tout la même que quand on mâche quelque chose, la sensation alimentaire n'est pas la même, le goût n'est pas le même. Donc oui, bien entendu, c'est enfin malheureusement, c'est un petit peu enfin, comment dire, la dernière étape de la société dans laquelle l'homme maintenant s'alimente uniquement pour avoir des calories et un nombre précis et plus du tout pour avoir une connexion avec soi via l'alimentation. Mais ça crée, voilà, ça crée des pathologies derrière que l'on voit fréquemment et des désordres alimentaires, etc. Donc, enfin, je lutte pas du tout contre eux parce que en soi, sur le principe, si c'est pour dire, OK, vous pouvez avoir quelque chose de relativement complet, de rapide quand vous n'avez pas le temps, bah, carrément, pourquoi pas. Et voilà, je suis pas du tout contre ça. Par contre, avec que les gens aient bien la notion à côté que la plupart du temps, il faut pouvoir en effet ben, se reconnecter, pouvoir avoir des aliments entiers, prendre le temps de les manger, de les cuisiner, de les préparer, se faire plaisir, avoir de la variété, pouvoir avoir accès à tout et pas uniquement à des poudres et à des gélules pour maigrir et pour avoir les vitamines nécessaires. Enfin, voilà.
Ok. Non, mais je trouve ça intéressant de contrebalancer un petit peu les promesses qui peuvent être faites sur ce genre de produits. C'est bien, comme tu dis, lorsqu'on voyage aussi, je pense que ça va être pas mal, de temps en temps, pour aller un peu plus vite. Mais au long terme, pas certain que ça apporte que du bénéfice. Alors, donc, la nutrition, toi, tu es en activité libérale. Donc, par rapport à tes réseaux, à ce que tu communiques, notamment sur Instagram et sur YouTube aussi. Donc c'est le bodybuilding à l'ancienne en quelque sorte. Hein. De toute façon, tu as un podcast qui s'appelle Rétro Bodybuilding. Hein.
Ouais, bah là on peut pas se tromper. Après c'est parce que je lui donne un petit style vintage, un peu années
Ah mais j'aime bien.
70-80. Et
Je trouve ça
ouais,
super. Hein.
ça refait le lien avec la partie qui pour moi non seulement est ce qu'on pourrait nommer actuellement le old school bodybuilding, mais enfin pour moi c'est le bodybuilding tout court qui est représenté comme ça là. Après il a évolué vers des choses que je trouve différentes, que j'apprécie également, mais qui ne sont plus autant caractéristique que l'essence même de la culture physique quand elle est arrivée, en tout cas aux États-Unis, et toute sa montée en puissance dans les années 60, 70, 80, 90, même jusqu'à 2000.
Mais quand on va sur ta chaîne, donc on peut te, ou même sur ton Instagram, hein, tu me diras, on peut voir ton physique, puisque tu arbores des poses, tu fais du posing à l'ancienne un petit peu. Bon, on aime ou on n'aime pas ça,
Affaire de goût.
c'est. Oui, c'est une affaire de goût, mais moi j'aime bien ce truc, ce côté un peu à l'ancienne, tu vois. Mais Alex avait ce même truc, d'ailleurs, c'est pour ça que vous entendez bien et que vous avez collaboré un petit peu ensemble. Alex, d'ailleurs, qui est Airsoviac, que j'ai reçu, qui est reçu dans l'épisode 17. Pour ceux qui peut-être arriveraient là, qui auraient découvert le podcast il n'y a pas très longtemps, Airsoviac, qui a un super physique lui aussi. Je renvoie tout le monde à l'épisode L'art du bodybuilding au naturel. Et donc toi, tu as une sèche quand même, tu as une bonne sèche, comment on pourrait dire. Je m'exprime un peu
Oui, bien sûr.
grossièrement, tu vois, tu as une bonne sèche. En gros, c'est tu as pas beaucoup de gras. En fait, tu as fait des compétitions, on peut le voir sur ta chaîne, où tu es descendu bas. Et je crois pas que j'ai déjà vraiment défini ce que c'était que la sèche dans le podcast, dans des épisodes précédents. Alors, c'est un terme qui est aujourd'hui un petit peu trop galvaudé, c'est-à-dire que dès que quelqu'un veut perdre du poids, on a vite tendance à lui dire ouais, il faut que tu sèches. Mais en réalité, le terme sèche, c'est vraiment un truc de bodybuilder, quoi. C'est on va aller chercher très bas dans la descente calorique.
Oui, bah en fait la sèche, voilà, c'est une phase de définition musculaire tout simplement. C'est qu'en général, une fois qu'on a une phase où bah, on mangeait relativement à sa faim ou beaucoup, qu'on essayait vraiment d'augmenter ses charges, de continuer à prendre du poids, de construire, il y a un moment où on a envie de justement d'essayer d'éliminer un petit peu le gras qu'on a pu accumuler et de voir qu'est-ce que va rendre notre physique hein, une fois que l'on aura justement sorti ce petit excès et voir des muscles un peu plus saillants. Et voilà, en fait, ça fonctionne, c'est tout simple, hein, ça reste un déficit calorique hein, progressif avec.
Et c'est ça, ouais, comment on sèche alors?
Ouais, mais en fait, il y a plusieurs options. Ça se joue sur plusieurs choses. Hein. Donc, ça va être sur les calories qu'on ingère dans la journée et notre activité physique. Donc, après, c'est de jouer la bonne balance entre faire un peu plus attention à son alimentation, essayer de diminuer son total calorique tout en ayant une bonne répartition et augmenter un petit peu ses activités physiques, bouger un peu plus. Voilà, c'est pas forcément des choses très très spécifiques, mais c'est le mélange des deux qui nous permet petit à petit de perdre du poids et de conserver, bien entendu, avec un bon total au niveau des acides aminés et du bilan azoté pour ne pas perdre de muscle, ou en tout cas le minimum possible, parce que bien entendu, il y a toujours un peu de fonte musculaire dans l'eau. Et après, voilà, avec les années, de faire des phases de définition un peu plus poussées à chaque fois, le corps apprend à aller chercher plus bas au niveau de ses calories, apprend à aller creuser un peu plus au niveau musculaire, au niveau de la définition, et ça devient de plus en plus facile. C'est-à-dire que pour moi, les sèches les plus difficiles, c'est celles que j'ai fait mes 2 premières années. J'étais probablement 4-5% de body fat, comme on dit communément, au-dessus de ce que je suis maintenant. Et c'était beaucoup plus difficile et drastique que ça l'est maintenant, parce que maintenant mon métabolisme connaît, enfin je connais mon corps, mon métabolisme fonctionne très bien. Et là actuellement, je suis relativement sec et j'ai fait absolument aucun effort pour être dans cette condition-là, parce qu'après le corps se maintient naturellement plus sec avec les années d'entraînement, l'expérience et puis la qualité. Enfin voilà, on cueille les vertus des graines que l'on a semées au bout des années à faire relativement attention et à travailler pour soi.
Et toute la difficulté, oui, c'est de descendre petit à petit en pourcentage de masse grasse, enfin perdre le gras le plus possible et garder le plus possible de muscle. Ça, c'est la difficulté à partir d'un certain niveau. Parce que quand tu es, on peut dire, très gras, c'est assez facile de se débarrasser des couches de gras les premières. Mais dès que tu commences à tomber dans un pourcentage autour de 15-10 par là, c'est là où ça devient difficile d'aller puiser le plus possible de gras en gardant le plus possible de muscle. Et surtout en diminuant progressivement donc ton apport calorique. Comment tu fais, ou comment tu peux voir quand ton métabolisme va commencer à diminuer? Parce que le métabolisme... peut-être que tu le diras mieux que moi, tu vas me dire, mais c'est, on va dire, c'est ce que consomme ton corps de manière générale pour se maintenir en vie, en santé. Et en fonction de ça, tu vas soit manger plus que ce que ton corps a besoin pour prendre du poids, on va dire grossièrement, soit un peu moins pour perdre du poids. Et la difficulté, c'est qu'à un moment donné, ton métabolisme, il s'adapte un petit peu à ce que tu lui apportes et il peut se ralentir. Et en fait, pour le même volume, la même quantité d'aliments, tu finis par ne plus perdre de gras parce que ton corps s'adapte.
Tout à fait.
C'est vrai.
C'est très très particulier. J'aurais pas les prétentions scientifiques de pouvoir détailler tout ça mieux que tu ne l'as fait là. Il faudrait
Non, mais
que mon
je
ami
vulgarise,
Will,
hein.
mon ami Will soit là. Oui, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. En fait, moi je vais parler avec des termes un peu plus simples. Au bout d'un moment, quand vous diminuez les calories, on arrive à un certain stade où, si vous voulez, quand vous êtes à 1600 ou 1700 calories, ce qui est rien du tout, et que vous voyez que vous perdez plus de poids, que vous êtes obligé de descendre plus, en fait, on rentre en zone rouge. Et en fait, l'erreur que font majoritairement les gens, c'est qu'ils cherchent à être encore plus drastiques avec eux-mêmes, et du coup, ils vont complètement bloquer leur métabolisme, et on arrive avec des catastrophes. Et quand je dis des catastrophes, je pèse mes mots, parce que moi, je me retrouve souvent avec des gens post-compétition ou autres qui ont eu des pseudo-coachs relativement malsains, j'ai pas honte de le dire, qui ont fait faire n'importe quoi aux gens, que ce soit des femmes ou des hommes, qui se retrouvent avec des corps épuisés, fatigués, et qui font une contrebalance, où quand ils ont plus de suivi, c'est de la boulimie, c'est manger à plus avoir aucune satiété, plus avoir aucune sensation, parce qu'ils ont tellement tiré dans leur capital psychologique et physique à aller chercher des zones caloriques beaucoup trop basses par rapport aux besoins du corps, que le métabolisme est extrêmement perturbé. Et du coup, ça crée des comportements compulsifs et des biais alimentaires qui sont totalement malsains, et des troubles ce qu'on appelle des troubles du comportement alimentaire. Donc en fait, le secret à ça, je vous le dis là, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'explique un peu plus précisément et avec les gens avec qui je travaille dans le nutrition. Donc là, bon, on est dans le cadre d'un podcast gratuit, donc c'est cadeau, profitez-en. C'est qu'en fait, au lieu de vouloir tirer toujours plus bas, il faut accepter que quand le corps commence à se braquer, il y a plusieurs signaux à identifier pour ça, il faut tout simplement ne pas être trop gourmand, remettre des calories et y revenir plus tard. Et il faut savoir qu'une sèche poussée, une sèche profonde, c'est pas une sèche qui se fait en 3 mois, c'est pas une sèche qui se fait en 6 mois, c'est une sèche qui se fait sur plusieurs années. Ça veut pas dire sécher pendant 3 ans, ça veut dire qu'une fois que vous avez atteint un certain stade, vous reprenez un peu de poids, vous remangez plus, vous êtes sur une phase de stabilisation, une phase neutre, une phase où vous reprenez même du poids, et plus tard vous revenez à une sèche. Peut-être l'été d'après, vous allez essayer de chercher un peu plus, et d'année en année, vous allez pouvoir creuser plus facilement. Et moi maintenant, je suis à 8% de matière grasse, peut-être moins, alors que je mange entre 2200 et 2500 calories. Pourquoi? Parce que c'est un équilibre avec son métabolisme, c'est pas qu'une question de calories dans la tête.
Et ben c'est parfait parce que l'écueil dans lequel beaucoup de gens tombent sur ça, c'est l'histoire de penser calories, peu importe le type de calories. Et alors ça a fait venir les tendances comme l'IFIM, je sais pas comment, l'IFIFIT en
Ouais,
macro. En gros, c'est tu peux manger un petit
la
peu ce que
diète
tu veux.
flexible, c'est pas ça, ouais.
Oui, en anglais c'est la flexible diet, c'est peu importe ce que tu manges. Peu importe la source des aliments, il suffit juste de regarder les calories que ça a, et puis tant que t'es dans tes calories, c'est bon. Et ben toi qui es justement diététicien nutritionniste, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour la santé déjà?
Il y a un côté fumisterie à ça. Après, les deux personnes qui ont amené pas mal ça en France sont des personnes que j'apprécie et je sais l'idée
Oui,
qu'ils
mais
ont
moi
eue à
aussi.
transmettre ça. Et en fait, le problème, c'est que ça peut être utilisé d'une manière intelligente et saine, et ça peut être utilisé de manière très idiote. Donc ça, c'est bien entendu, c'est toujours dépendant, mais j'ai envie de prendre une marche en arrière et de voir un contexte un peu plus global. C'est-à-dire que pour reprendre un petit peu tout ça, que ce soit la flexible diet, que ce soit la diète cétogène, que ce soit peu importe le nombre de diètes qu'on voit passer au fur et à mesure des années. Donc je suis encore jeune, hein, j'ai 27 ans, mais c'est vrai que je commence à avoir un tout petit peu de recul sur la culture physique et sur ce que je vois depuis mes débuts. Et même sur les recueils que je peux avoir depuis les anciennes années. En fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas, il n'y a pas vraiment de secret, il n'y a pas de diète miracle, il n'y a pas d'alimentation miracle, il n'y a pas de secret majeur. Et en fait, c'est des choses que les gars avaient déjà compris il y a 40, 50 ans. C'est qu'en fait, il faut manger tout, il faut manger varié, il faut se faire plaisir. Et bien entendu, quand on a envie de manger à l'extérieur, d'être avec des amis, de se faire plaisir sur un repas où on sait que c'est pas la meilleure chose possible au niveau qualité nutritive et qualité des ingrédients, mais il faut aussi satisfaire le plaisir psychologique. Et en fait, le secret, il est là. Le secret, c'est de trouver le juste équilibre entre avoir une alimentation qui est adaptée à sa progression physique, à ses performances, à sa volonté de progression, et qui nous fait aussi plaisir, qui nous permet de conserver un lien social conséquent, d'avoir une hygiène de vie qui est correcte. C'est en fait cette homéostasie, cet équilibre qui nous permet de tenir sur le long terme. Parce que les mecs qui font des diètes ultra strictes, peut-être que ça marche, mais sur le long terme, ils pètent un plomb psychologiquement. Et les gens qui s'amusent à faire de la flexible diet et d'avoir la moitié de leurs calories qui provient de sneakers et de plats préparés, ben c'est sûr qu'ils n'auront jamais un physique exceptionnel. Donc, en fait, voilà, on cherche à. De toute façon, les gens sont friands et les gens sont preneurs et les gens sont acheteurs. Il y a une demande pour ça. Si on leur dit, voilà, les 7 secrets pour des abdos en béton, voilà, les mecs qui font ça, enfin, ils sont un fric monstre. Et voilà, si on a ce côté-là où on se dit, OK, je veux faire un peu de marketing, ben ouais, ça va marcher du tonnerre. Après, moi, je me suis toujours refusé à ça parce que c'est jouer, je trouve, un peu de, voilà, du comportement, de l'instinct des gens, alors que moi, je sais qu'il n'y a aucun secret. Moi, je fais presque pas d'abdos. J'ai des abdos ultra dessinés, j'en fais pratiquement pas. Quand je vois des gens qui passent 45 minutes à faire des abdos à la salle, je trouve que c'est complètement idiot parce qu'en fait, s'ils travaillaient sur des exos de base qui boostaient leur métabolisme, les abdos, ils arrivent tout seuls après. Donc, tu vois, en fait, il y a toute cette zone-là qui est. Il faut réussir à prendre un peu de recul et ça, faut le découvrir soi-même, faut se renseigner, faut se comprendre, faut s'écouter. Il faut aussi sortir un peu de tout ce monde des réseaux, tout ce monde de l'ultra-information qui en devient un peu malsaine et les gens s'écoutent plus, les gens prennent plus le temps de se découvrir. Voilà, bon, je suis un peu parti loin, j'ai fait un gros tour, mais en gros, il n'y a pas de diète miracle. La flexible diet, c'est un truc qui a toujours existé. C'est tout simplement manger équilibré, manger bien, et puis apprendre et savoir se faire plaisir d'une manière raisonnée, pas tous les jours, mais de temps en temps, quand on en ressent l'envie. C'est ce que je fais depuis toujours, et ça marche très bien, et je suis totalement bien, autant psychologiquement et physiquement. Maintenant, le résultat paye de lui-même, surtout que, bon, il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas que je suis naturel, mais en tout cas, moi, je le suis et j'ai une condition physique qui, pour quelqu'un de naturel, commence à être relativement intéressante au niveau du masse.
Ouais, non, mais je confirme. Je confirme. Ceux qui ne te connaissent pas, qui ne voient pas exactement à quoi tu ressembles, ils peuvent aller jeter un œil, hein, ne serait-ce qu'à tes photos ou à tes vidéos. Oui, c'est une évidence. Je rajouterais, ce qui est formidable dans la flexible diet, ou enfin, en gros, c'est manger un petit peu n'importe quelle source d'aliments tant que tu respectes les macros. En fait, ce qui est formidable avec ça, d'un point de vue de marketing, c'est que. La promesse, elle est perdez du poids, perdez du gras. Donc déjà, on est sur une promesse que les gens veulent. Et la plus grosse, et j'ai envie de dire presque la seule grosse difficulté qu'il y a dans le fait de perdre du poids, c'est que tout le monde sait plus ou moins ce qu'il faut faire. manger mieux, manger plus équilibré, manger moins, etc. Enfin, c'est faire du sport. Bon, les grands classiques.
Et c'est
si
évident.
Tu veux, l'obstacle, ouais, l'obstacle numéro un, c'est le sacrifice alimentaire. C'est en fait, tu veux perdre du poids? Oui, les gens veulent perdre du poids. Quel est le sacrifice? Quel est le gros problème? C'est le sacrifice alimentaire. Et là où c'est plutôt malin, je sais pas, mais là où la flexible diet et pas que ça, d'ailleurs, il y a le jeûne intermittent participe à ça aussi, c'est de dire, en fait, je vous fais cette, avec ma méthode, je vous fais cette promesse et j'enlève le plus gros sacrifice qu'il existe pour avoir le résultat, c'est-à-dire faire du sacrifice alimentaire. Avec ma méthode, vous allez pouvoir non seulement perdre du poids, mais en plus manger ce que vous voulez. Et si on fait le rapport avec la... que ça soit le alors peut-être pas la diète cétogène, mais le jeûne intermittent ou le, tu sais, le fait de manger une ou deux fois dans la journée ou ce genre de choses, en fait, c'est la même promesse, c'est vous pouvez y aller, quoi. Vous pouvez y aller. Vous pouvez... Avec moi, vous allez perdre du poids et en plus, vous pouvez bouffer ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on enlève le plus gros problème. Et alors, les gens, ils disent, mais c'est formidable. Non seulement je vais perdre du poids avec ça, mais en plus, je vais pouvoir manger ce que je veux. Donc, si tu veux, il ne peut pas y avoir plus attractif.
Oui,
c'est
oui.
Ça le problème.
Ah bah c'est sûr. Après, ben c'est ce que je te disais, c'est que c'est du gourou marketing. Voilà, ils savent sur quel point jouer. C'est de l'émotionnel. Donc quand on joue avec l'émotion des gens, si on est assez malin, et ils le sont, hein, de toute façon, enfin pas que sur ça, mais sur le nombre de sujets où on voit les choses qui peuvent se vendre et autres. Donc en effet, c'est ça vend du rêve. Après, il faut bien comprendre que le changement à court terme, ça sert à rien si le changement à long terme ne s'effectue pas. Et en fait, au lieu de vouloir comprendre la diète miracle, il faut comprendre comment s'alimenter pour toute sa vie et que ça puisse en plus fitter avec vos objectifs physiques. Et il faut laisser une part aussi à la capacité de notre corps de gérer tout cela. Parce qu'en fait, une fois que vous avez un corps qui fonctionne bien et que vous comprenez et que vous connaissez, ben, il n'y a pas besoin d'être si strict que ça. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est que... voilà, c'est une alimentation qu'on pourrait appeler un peu plus instinctive. D'ailleurs, c'est un podcast que j'ai fait avec Claudia qui était assez intéressant, où au final, quand on arrive à vraiment se reconnecter à son corps, alors après, moi je dis ça, hein, mais pendant des années, j'ai tout calculé, hein, vraiment pendant 4-5 ans, j'ai tout calculé tout le temps parce que j'avais besoin de savoir. Et maintenant, j'ai un vrai recul et j'ai décidé de déconnecter de tout ça. Je m'en porte que mieux parce que c'était carrément l'orthorexie, c'était pas sain au final. Et maintenant, j'ai aucune idée de ce que je consomme comme calories, mais zéro, je ne sais pas du tout. J'ai un corps qui fonctionne du tonnerre, je mange à ma faim, dès que j'ai envie de manger, je mange. Bien entendu, je ne vais pas spécialement grignoter, je n'en ressens pas l'envie, parce que j'ai un bon équilibre et un bon rythme alimentaire qui s'est induit, mon horloge biologique fonctionne correctement. et voilà, quand les enzymes arrivent, que je commence à saliver parce que j'ai faim, je suis en train de faire à manger, voilà, ben, je mange, je prends le temps de manger. En fait, c'est toute cette adaptation-là qui prend des années, hein, ça peut prendre moins, mais après, ça dépend de l'enfance qu'on a eue et le lien à l'alimentation qu'on a eu également. Et après, ça roule tout seul, ça roule tout seul, et il n'y a pas besoin de payer de diète miracle ou de livres qui vont vous apprendre les secrets des hommes de Cro-Magnon, les secrets qui en sont pour 2020 pour avoir le corps parfait. Voilà, parce que malheureusement, tout ça, c'est de la fumisterie. Et les gens se font toujours avoir et continuent de se faire avoir. Et puis, ils perdent 5 kilos, ils perdent aucun kilo, ils perdent 15 kilos, et après, ils reprennent tout. Et voilà, après, c'est un sujet sans fin, malheureusement. Moi, je constate ça de loin, et maintenant, ben, les gens qui décident de me faire confiance par rapport à leur alimentation, moi, je travaille avec eux, mais je travaille pas pour donner des secrets, je travaille pour leur apprendre à mieux s'écouter, leur apprendre à mieux gérer leur alimentation, leur donner des tips et l'expérience que moi j'ai. Et l'idée, c'est qu'à la fin, ils savent se gérer pour toute leur vie, en fait. Et je ne cherche pas à les conserver à long terme, parce que je trouve ça malsain. Le but, c'est juste d'apporter ce que moi j'ai à offrir et après de les laisser prendre leur envol, s'autogérer. Et moi, ce que j'aime, c'est que les gens soient curieux, les gens apprennent, me posent des questions, pas pour répéter bêtement, mais pour comprendre et ensuite pouvoir trouver leur propre voie. Parce que la seule personne qui peut se comprendre le mieux, ce sera pas un super coach qui a géré plein de gens, c'est vous-même. Personne pourra vous comprendre aussi bien que vous-même.
Et est-ce que la source, ou en tout cas la qualité des aliments, va avoir un rôle sur la qualité de la peau, justement, peut-être la qualité du muscle, et là, ça va peut-être rejoindre les plus chevronnés pratiquants de musculation, et on va peut-être faire le lien avec la culture physique, le bodybuilding, tu vois. Est-ce que toi, t'as remarqué dans ton expérience que la qualité d'une alimentation va avoir un rôle sur ça, peau, muscle, sur la qualité du muscle? une question. C'est difficile à dire.
Ouais, c'est une question assez difficile parce que bah moi j'ai une qualité de peau qui est excellente, j'ai une alimentation variée, je mange des produits laitiers, hein. Par exemple, je sais que pendant très longtemps, j'entendais ça au début là, vers 20 ans, que les produits laitiers épaississaient la peau, etc. Enfin, j'ai pas de, disons que vis-à-vis de mon expérience personnelle, je mange de tout, je mange des aliments qui sont quand même, voilà, hein, j'essaye de prendre des choses de qualité un maximum. Voilà, j'ai une bonne qualité de peau. Dès que je suis en phase de définition, j'ai vraiment la fibre qui est apparente. Après, voilà, pouvoir répercuter ça sur tout le monde, honnêtement, j'ai pas assez de background et d'informations pour savoir ça. Après, ça me semble, disons, logique et évident que moins on va chercher des choses transformées, plus on va prendre des choses qui sont naturellement présentes dans la nature, ben, mieux on va pouvoir les tolérer, mieux on va pouvoir les digérer et du coup plus l'impact sur notre physique sera positif, j'ai envie de te dire. Mais là, ça va vraiment sur le côté du bon sens plus que sur l'étude scientifique de la chose, parce que pour le coup, enfin, je me suis pour moi plus intéressé au fait de chercher ce que les aliments pouvaient m'apporter pour me sentir bien et d'essayer de comprendre comment sélectionner ou trouver des bonnes viandes ou trouver des œufs, quels œufs sélectionner pour essayer d'avoir une qualité, etc. Et voilà. Et après, il faut savoir que l'expérience pour la culture physique, c'est ce qui joue sur ce qu'on appelle la maturité, et la maturité musculaire influe sur la qualité du muscle et la peau. C'est-à-dire que moi, si tu veux, depuis ces dernières années, j'ai pas des différences astronomiques dans mon alimentation, et pourtant ma peau et la qualité de mon muscle, en définition, elle est de mieux en mieux. Simplement, ce que mon corps progresse avec les années au niveau de son fonctionnement, en fait, hein, au niveau de la répartition des graisses, la répartition musculaire, des éléments assez complexes qui peuvent probablement s'expliquer scientifiquement, mais que je ne saurais pas expliquer précisément et que je ne cherche pas à vouloir expliquer parce que c'est aussi le plaisir du processus, c'est instinctif, tu t'engages dans ta passion, tu continues, tu es sérieux, tu es assidu et au fur et à mesure des années, ton corps est de mieux en mieux.
Et tu dirais que ça serait quoi les différences de nutrition entre quelqu'un qui pratique la musculation dans un objectif de progresser avec quelqu'un qui ne pratique pas nécessairement la musculation, qui peut être actif ou pas, qui mange juste pour sa santé, enfin qui mange pour parce qu'il doit manger et parce qu'il a envie d'être à bonne santé. Quelles sont les grandes différences? Ouais,
Honnêtement,
déjà.
pas tellement, si ce n'est que l'apport en protéines est forcément un peu plus élevé pour un sportif et pour un culturiste, même si ça semble démontrer maintenant qu'il n'y a pas besoin d'avoir des quantités de protéines astronomiques et qu'une fois dépassé les 2 grammes par kilo, ce serait peut-être pas si utile que ça. En tout cas, c'est vrai que une personne, voilà, enfin, en tout cas, moi, je sais que voilà, je mange de la viande à chaque repas, j'ai des œufs le matin, j'ai fromage blanc, tu vois, j'ai pas mal de sources de protéines dans la journée. Je suis quand même conscient que sur un point de vue écologie, je suis un peu le mec qui pollue parce que ben forcément, on sait très bien que la viande, que ce soit au niveau de la production et autres, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique et que moins on en mange, mieux c'est. Quelqu'un qui, enfin de lambda sans être péjoratif, il va avoir, voilà, si peut-être que s'il mange une seule portion de viande dans la journée ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours, ce sera amplement suffisant avec un équilibre à côté. Au niveau des sources de glucides, un peu de fromage, un peu de produits laitiers, quelques œufs, il n'y aura pas besoin d'aller chercher autant de protéines et du coup, ben voilà, ce serait la différence. Après, niveau qualité des ingrédients, niveau réflexion autour de tout ça, j'ai envie de dire que c'est assez semblable parce que voilà, le culturiste, l'adepte de la culture physique, il doit apprendre à ne pas être surchargé au niveau de son alimentation, à manger bien, mais à ne pas manger trop. Et voilà, enfin, les gens qui mangent 6000 calories, qui bouffent 35 œufs par jour ou 5 shakes de protéines et tout, c'est complètement idiot, même pour la culture physique. On va essayer de vous faire croire que de toute façon, pour no pain, no gain, pour exploser, c'est ce qu'il faut, mais pas du tout. Pas du tout. Il faut savoir que même des grands champions comme Arnold, comme Samir Banout, comme Franco Colombo, c'est pas des mecs qui mangeaient tant que ça. Ils avaient pas des diètes astronomiques, hein. Ils mangeaient des, enfin voilà, ils avaient des shakers avec énormément de lait, ils buvaient des steaks, enfin, ils mangeaient de la viande, mais des steaks de viande. Ils mangeaient pas 500 grammes par repas, hein. Ils mangeaient 150, 200 grammes. Donc même pour Arnold qui faisait 100 kilos, c'est une toute petite portion. Et ça les a pas empêchés. Bon, après, bien entendu, hein, il y avait de la chimie et autres, mais ça les a pas empêchés d'avoir des progressions musculaires astronomiques. Donc l'alimentation et l'excès calorique, on essaye de enfin, c'est ce qu'on va entendre directement dans la culture physique, mais c'est pas ça la culture physique. C'est pas pour prendre du poids, il faut manger 5000 calories, il faut se mettre à 4 grammes par kilogramme de protéines. Ça, c'est juste des bêtises qu'on fait à 20 ans, 21 ans, 22 ans, et après on se dit en fait c'est pas grand-chose si ce n'est me donner mal au ventre et avoir quelques troubles digestifs. Et après on se reconnecte un peu plus, et puis du coup on continue de progresser en ayant une alimentation qui est beaucoup plus connectée à la réalité.
Et tout à l'heure, tu disais justement qu'il y avait beaucoup de personnes qui te pensaient pas naturelles. C'est vrai que tu as un physique qui est plutôt esthétique. J'aimerais peut-être en parler après de cet aspect esthétique, assez volumineux, qui n'est pas trop non plus. Donc certaines personnes ont des doutes. Et bon, tu as dit que tu étais naturel, donc moi, il n'y a aucun problème, je te crois. Il n'y a pas de procès d'intention de quoi que ce soit ici. Pourquoi tu n'as pas, étant donné que tu adores le bodybuilding, que tu aimes beaucoup donc l'âge d'or du bodybuilding, donc Arnold, Frank Zane, etc. Frank Zane, je crois que tu l'adores et c'est vrai qu'il avait un physique assez incroyable. Moi, c'est un de mes physiques que je trouve le plus esthétique. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas voulu passer de l'autre côté de la barrière, ou comment on pourrait dire, du côté obscur de la force, en peut-être essayant une cure de stéroïdes?
Alors, il faut savoir que c'est pas, je vais être très honnête, c'est pas un choix définitif. C'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai jamais utilisé de stéroïdes, de produits anabolisants, ni même de produits pour sécher ou autre, parce que y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, j'ai peur. J'ai peur de toucher à mon système hormonal. Je trouve ça malsain. Ça, c'est inquiétant. En fait, il y a déjà beaucoup de choses à contrôler dans la culture physique. Ça fait encore une nouvelle contrainte. Ça fait des frais. Tout ça, je trouve que c'est chiant. Et à côté de ça, la raison principale, c'est que la culture physique actuelle, le bodybuilding actuel, il ne passionne pas autant que le bodybuilding des années 80. Des fois, j'ai l'impression que je suis pas né à la bonne époque. C'est-à-dire que d'arriver à un très haut niveau dans la culture physique, pour moi, ça, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Disons que, tu vois, enfin, j'ai pas l'intention actuellement de devenir un pro dans le bodybuilding parce que ça me ferait pas rêver, parce que c'est pas une place où j'ai envie d'être, parce que la mentalité qui se dégage, c'est pas la mienne. Et je pense que si j'étais né dans les années 70-80 à l'époque de Frank Zane, ben je pense que je peux te dire que j'aurais carburé sévère parce que je trouve qu'il y avait une euphorie autour de ça, il se dégageait quelque chose sur les scènes, sur la mentalité, sur tout ça, qui fait que je me serais dit, il y a des risques, mais j'y vais parce que pour moi ça en vaut le coup. La passion, elle est jusqu'au bout et tout sportif de haut niveau, malheureusement, atterrit souvent dans les drogues. Ça fait partie du jeu aussi. Et je juge pas du tout, je blâme pas du tout les gens qui en utilisent. J'ai beaucoup de collègues, beaucoup d'amis qui en utilisent. Mais c'est vrai que voilà, pour moi, en fait, si jamais un jour je dois le faire, ce sera par quête personnelle d'avoir un physique encore plus abouti, encore plus exceptionnel. Mais je pense que j'ai encore du potentiel naturel à aller chercher, à aller atteindre. Et puis c'est vrai que, si tu veux, je me fais souvent cracher à la figure quand je parle un peu de ça. Et pour moi, c'est un peu un combat de transmettre aussi l'image d'une culture physique naturelle. Qui peut ressembler à quelque chose, bien sûr, je ne ferai jamais 90 kilos sec, mais qui peut ressembler à quelque chose, par la passion, par la symétrie, la proportion, la maîtrise de son corps, donner quelque chose qui est beau, quelque chose qui donne envie et qui reste du bodybuilding, avec du muscle, pas en quantité astronomique, mais en quantité suffisante pour avoir quelque chose qui visuellement est beau et donne envie.
Et quand je passe à cette caractéristique esthétique, donc comme je disais, je pense très souvent à Frank Zane, qui a été Mister Olympia une
Oui,
fois, je
trois
crois.
fois, trois
Ouais.
fois.
Trois fois, pardon, trois fois.
Three time
Ouais, donc
Mister Olympia.
il a un physique incroyable. Il n'est pas hyper volumineux, il est moins volumineux que Arnold, par exemple, mais il a une. Alors tu vois, moi je vais parler en termes de quelqu'un qui n'est pas un pur connaisseur.
Bien sûr.
Enfin, qui connaît un petit peu, qui aime ça, mais qui n'est pas. Je vais pas te détailler exactement tous les trucs, mais quand je le vois, moi, ce qui me vient en tête, c'est il a une ligne. Et encore, le mot ligne, je ne pourrais pas le définir. Et tu vas peut-être pouvoir le faire justement. Et il a une ligne incroyable. Je me dis, il est waouh, il est hyper esthétique. Et si on me demande, mais quels sont ses critères esthétiques, je vais avoir du mal à répondre. Je vais dire, je sais pas. Je ne saurais pas exactement comment le définir. Je trouve que ses épaules sont bien rondes. Tu vois, mais par exemple, Arnold, bon, ses épaules étaient rondes aussi, tu vois. Je ne vais pas réussir à vraiment définir ce que c'est que la ligne, l'esthétique. Désolé pour les petits bruits
Ouais, j'en
d'ambiance
ai
qui
eu
passent
quelques-uns
ici.
aussi, on sera pardonné.
qui sont pas exactement les mêmes qu'en France d'ailleurs. À chaque fois qu'il y a une ambulance qui passe, les Français, ceux qui viennent, les touristes français, ils sont là. Putain, c'est incroyable. On dirait New York. Là, c'est les mêmes bruits, mais enfin bon, bref. Donc, je pourrais pas définir ce que c'est que l'esthétisme, que c'est qu'une belle ligne. Par contre, tu vois, si on me disait, pour toi, qui est la meilleure ligne ou qui est la meilleure esthétique, je dirais un Frank Zane, par exemple. Et comment tu l'expliques? Est-ce qu'il y a des caractères qui font qu'on est esthétique?
Alors ça c'est très très intéressant déjà parce que je trouve ça d'autant plus intéressant que tu t'exprimes en tant que quelqu'un de même qui soit intéressé à minima dans le bodybuilding qui est quand même d'extérieur parce qu'il faut pas oublier que la culture physique le bodybuilding à la base c'est fait pour être apprécié Le corps qui se crée est fait pour être apprécié par tout le monde et pas uniquement par les adeptes de bodybuilding. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand des gens peuvent voir des photos de Frank Zane ou même à l'heure actuelle des gens totalement anodins ou en dehors de ça, ils vont se dire waouh, putain, tu vois exactement ce que tu as décrit. Tu dis, je sais pas l'expliquer, mais c'est beau, mais voilà. Et ça, c'est ça la culture physique. C'est pas un mec qui fait 150 kilos pour 1m75 et que tu te dis waouh, c'est impressionnant, mais qui veut être comme ça, c'est immonde. Non, c'est vraiment cette notion qui est lié au charisme, en fait. Et c'est ça qui fait que c'est indescriptible, c'est parce que c'est lié au charisme. En fait, il n'y a pas de proportion parfaite pour un physique old school. C'est de créer quelque chose sur sa base, et c'est de créer quelque chose qui va dégager aux autres. Et ça, c'est émotif, c'est que waouh, tu te fais, t'es bluffé, t'es là, waouh, c'est magnifique, tout correspond, la ligne de deltoïde avec les pectoraux, tout est parfait. Parce que, en fait, c'est un ensemble qui a été créé avec passion par l'artiste qui a créé son physique, hein, le sculpteur de son propre corps. Frank Zane, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a un aspect psychologique, mental extrêmement poussé, qui est extrêmement intéressant. Et tous ces gens-là, ils avaient des caractéristiques propres. Chacun avait son propre physique, sa propre mentalité. C'était des gens passionnés et qui dégageaient vraiment quelque chose, un charisme, une émotion qui se ressent en fait dans tous ces physiques, notamment. Et Frank Zane a été élu plus beau physique de tous les temps, d'ailleurs avec Steve Reeves, qui est un Mister Univers un peu plus ancien. Et voilà. Et en fait, c'est subjectif. Et c'est là tout ce qui est intéressant dans ce sport, c'est la subjectivité de la culture physique. C'est-à-dire que des gens vont pouvoir aimer, d'autres ne vont pas pouvoir aimer, mais la plupart des gens qui vont voir un Frank Zane vont se dire waouh. Je sais pas vraiment le décrire, mais c'est beau, ça me fait rêver, c'est magnifique, tout est bien géré, tout est bien équilibré. Bien entendu, il y a des grandes notions, c'est-à-dire que d'avoir une taille fine, d'avoir un évasement au niveau des épaules, d'avoir des abdos et des obliques assez saillants. Mais après, en dehors de ça, si tu veux, on pourrait détailler toute l'anatomie, muscle par muscle, mais ça pourrait pas décrire cette sensation qu'on a vis-à-vis d'un physique. Et maintenant, on a des gens qui sont, chaque muscle est développé au maximum, chaque muscle est à 3% de matière grasse. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle, en fait, c'est ce qu'on appelle le flow en anglais, le flow dans le bodybuilding. C'est cette capacité à dégager quelque chose, en fait, et qui se ressent encore plus à travers le posing, au mouvement du corps. C'est là où on arrive dans une dynamique encore un step après le muscle sur le fait de présenter son physique. Et tout ça, c'est ce qui me passionne dans la culture physique. Et c'est ce que j'essaye à ma petite échelle de dégager à travers ce que je construis et ce que je véhicule sur les réseaux, de refaire le lien entre ce côté un peu admiratif de la culture physique où on s'émerveille pas juste sur une quantité de muscles, mais bien sur un équilibre, une symétrie globale, qui n'est jamais parfaite et qu'il n'y a pas de recette magique et de réponse exacte à tout ça, parce que c'est de l'instinct, parce que c'est du plaisir, c'est de la passion, c'est du partage d'émotions, et c'est là où on rentre sur le côté artistique. Plus que sport scientifique.
Ouais. Et je trouve que ça évolue aussi parce que même sur un même physique, tu vois, moi je peux trouver quelqu'un. On va prendre l'exemple de il y a 2 ans, je crois que c'était Moore. C'est quoi son prénom? Pas Michael Moore évidemment, mais ni Roger Moore. J'ai perdu son prénom.
Oui, mais c'est
J'espère que
peut-être
je vais le
Michael
retrouver.
Moore, non? Ça me parle, ça. Un métis?
Ouais, non, je cherche rapidement. Patrick Moore, voilà, Patrick Moore, ouais. Qui avait un physique, je trouvais incroyable, il y a 2 ans, sur donc Monsieur Olympia. Je crois qu'il était dans la catégorie des gros ou des 212 ou des je sais plus quoi. Il y a 2 ans, quand c'était la première fois, c'était Lucas Guiff qui en avait parlé dans une de ses vidéos et qui avait montré son physique, que je trouvais d'un esthétisme absolument faramineux. Et pour moi, ça représentait OK. Là, on a un physique incroyable. Lui, il va prendre de la masse et puis il va pouvoir rivaliser dans les prochaines années avec les plus grands Mister Olympia. Il avait foutu tout le monde sur le carreau. Et c'est l'année dernière, je crois, au dernier Mister Olympia, il avait complètement. Alors, c'est hyper subjectif, hein, mais j'ai été tellement déçu parce qu'il avait pris beaucoup de masse en l'espace d'un an là. Mais par contre, il avait plus du tout cette ligne qu'il avait. Alors peut-être qu'il avait raté sa sèche pour Olympia, peut-être qu'il n'était pas hyper préparé. Mais en l'espace de 1 an, le facteur esthétique, et pourtant c'était le même corps, hein. Enfin c'était le même corps. C'est
la même
y a pas
structure, quoi.
et, voilà, c'est la même structure. Les insertions musculaires, elles n'ont pas bougé. Les longueurs osseuses non plus. Il n'a pas grandi, hein. Il a terminé sa croissance. Mais pourtant, sa préparation ou je ne sais quel produit peut-être qu'il a utilisé, j'en ai aucune idée, fait que il a perdu cette caractéristique esthétique. Et tu vois, ça bouge, quoi. Et inversement, un mec qui a remporté Le classique physique l'année dernière, celui qui a la moustache. Je perds les noms.
Chris Bumstead.
Ouais, Chris Bumstead. Et bien sur scène, je l'ai trouvé incroyable. Après, c'est juste personnel. Je l'ai trouvé superbe. Et par contre, sur les photos un peu hors saison, même s'il n'est pas hyper gras, ben je le trouve beaucoup, beaucoup moins esthétique. Donc, ça bouge, quoi. C'est pas un truc qui est immuable. C'est pas, t'as un physique incroyable et ça le restera tout le temps. Ça peut varier. Puis, inversement, c'est pas parce que t'as un physique qui est pas hyper esthétique a priori que tu ne pourras jamais le changer. Tu peux améliorer.
Ah oui, bien sûr. Après, le problème aussi, c'est la course à la masse. C'est la course à toujours plus, et au bout d'un moment, en fait, on casse cette, et ça arrive depuis déjà longtemps sur beaucoup de physiques, on casse cette dynamique du beau. En fait, on casse cette dynamique du beau pour pouvoir avoir toujours plus de muscles, et en fait, le tour de taille souvent part un peu en vrille. Et en fait, trop n'est pas toujours mieux. Et malheureusement, on demande tellement maintenant aux bodybuilders d'être toujours plus énormes et d'impressionner toujours plus pour avoir une chance de gagner. Et au lieu de changer un peu les codes, on est resté dans cette éthique-là depuis déjà plus de 20 ans. Et du coup, les physiques, petit à petit, souvent, les gens qui arrivent avec une qualité et des proportions magnifiques se dégradent de plus en plus au fur et à mesure des années, en même temps qu'ils prennent de la masse. Et ça, c'est une triste réalité. Et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément, même si j'apprécie les athlètes et j'apprécie le sacrifice et les conditions qu'ils arrivent à créer, parce que c'est astronomique. Moi, d'ailleurs, j'aurais jamais la qualité et la capacité même génétique de pouvoir créer autant, même sous je sais pas combien de produits, parce que moi je suis quelqu'un de fin. C'est pour ça que naturellement je me suis beaucoup plus orienté sur des Frank Zane et autres qui ont des petites tailles comme moi, qui font ma taille, qui ont des proportions de poids qui sont pour moi atteignables, même si je m'attends pas à faire 10 kilos de plus sec naturellement. Mais en tout cas, au niveau de, tu vois, de, au niveau subjectif de la sensation que je peux transmettre quand quelqu'un voit mon physique, ben je sais que j'en suis pas extrêmement loin. Et moi, c'est après ça que je cours, tu vois.
Je renvoie l'épisode que j'avais fait avec Axel, hein, encore une fois, où on avait pris le temps de discuter de ça, hein, la course à la masse, les différences de physique entre avant et maintenant, pourquoi, comment, les enjeux, donc tout ça. D'ailleurs, petit coucou à Axel, j'espère qu'il écoute, je pense qu'il écoutera ce podcast.
Ouais, c'est bien probable, ouais.
Donc on lui passe un petit bonjour. Peut-être une dernière chose avant de passer à une petite question de fin, très rapidement, comment tu organises aujourd'hui toi ton coaching? J'ai vu que tu proposais du coaching de posing aussi.
Oui, c'est vrai.
Et alors, est-ce que tu as peut-être comment on peut appeler ça, des enchaînements de coaching où tu fais un plan alimentaire, un posing, une sèche? Comment tu organises ta prise en charge toi quand tu as un client qui veut travailler avec toi?
Alors, c'est disons que déjà, ça s'adapte en fonction de la personne, parce que bien entendu, ça dépend des attentes de chacun. Il y a des personnes qui peuvent être intéressées uniquement dans le posing, d'autres dans l'alimentation, ou sinon sur les deux. Donc après, bien entendu, en fonction des objectifs de la personne, c'est comprendre ce qu'il ou ce qu'elle attend, parce qu'il y a aussi des femmes pour le posing, et pour la nutrition. Et ensuite, travailler ensemble, et puis mettre en place, voilà, moi je propose, et puis après, on s'adapte, hein, en fonction de l'objectif, et vis-à-vis de l'alimentation, l'idée c'est de, moi je travaille sur 6 mois minimum, parce que pour moi, enfin voilà, balancer un programme et puis faire ça sur 3 semaines, c'est pas utile. C'est vraiment une prise en charge moyen long terme que je cherche à mettre en place. Donc voilà, je préfère avoir une équipe un peu restreinte au niveau des clients que j'ai jamais plus de 10 personnes en même temps, parce que voilà, pour moi après c'est pas cohérent, j'ai besoin de temps, je suis quelqu'un de relativement pointilleux et perfectionniste. Donc, je prends le temps pour les gens et voilà, c'est un suivi évolutif où ensuite on fait des check-ups toutes les 2 semaines ou tous les mois. On fait évoluer le programme alimentaire. Voilà, on travaille main dans la main. On regarde différents indicateurs entre le poids, l'aspect visuel, la sensation, la fatigue et les performances à l'entraînement. Et voilà, petit à petit, on apprend. Moi, plus je connais les gens, plus je comprends leur métabolisme, et mieux j'arrive à être performant sur ce que je propose au niveau de l'alimentation. C'est un peu atypique, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, mais voilà, je suis assez discret avec ça parce que c'est pas mon activité principale. Mais voilà, les gens avec qui je travaille, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui écouteront, sont la plupart du temps vraiment satisfaits de ce qui s'en dégage. Et après, ben une fois que je les ai pris un peu par la main sur un certain temps, je les lâche et puis. Puis après, ils s'adaptent très bien, ils m'envoient des petits trucs en mode regarde où j'en suis maintenant, et puis ça fait toujours plaisir.
Et c'est quoi les bases d'un bon posing? La compétition, là, on parle de compétition. Hein.
Les bases d'un bon posing, pour faire très simple, c'est de réussir à ressentir une émotion grâce à une musique qui nous évoque quelque chose, et ensuite de transmettre cette émotion dans notre corps, et ensuite de transmettre cette émotion au public. Là, c'est vraiment l'aboutissement du posing. Après, le posing, d'une manière générale, c'est apprendre à connaître son corps, savoir comment se positionner pour être bien, pour être à l'aise, pour ne pas être trop fatigué en contractant son muscle, et d'avoir des poses qui sont quand même esthétiques, de savoir où sont ses défauts, de savoir où sont ses qualités, et de surtout toujours cacher ses défauts et montrer ses qualités un maximum, parce que c'est beaucoup de triche, hein, la culture physique, c'est apprendre à se présenter de la meilleure manière possible, et ça veut aussi dire cacher ses points faibles en fonction de son positionnement, c'est tout un art. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des physiques magnifiques, mais qui ne savent pas poser, qui détruisent leur physique en posant. Une personne qui saura bien se positionner et bien jouer avec ses proportions pourra passer devant un physique plus massif simplement par son positionnement. Et j'en suis la preuve.
Super. Bah Jordan, il me reste trois petites questions pour terminer cet épisode. Première question, si tu revenais 10 ans en arrière, donc à l'âge peut-être de 17 ans, 17-18 on va dire, quel est le conseil que tu aurais, alors peut-être pas aimé entendre, mais aurais eu besoin d'entendre?
Que j'aurais eu besoin d'entendre. Franchement, j'ai rien envie de changer. Tu sais pourquoi? Parce que de pas savoir et d'avoir appris par moi-même, c'était juste une expérience exceptionnelle. Et j'envie tous les gens qui vont débuter et qui vont découvrir toute cette sensation, qui vont découvrir ce processus. C'est un processus qui demande du temps, qui demande de la passion, et petit à petit on cultive sa passion. Et honnêtement, j'ai pris mon temps. J'ai pas de remords vis-à-vis de mes choix sur ma culture physique. Et je suis très content de là où j'en suis actuellement, de l'avenir que j'ai devant moi également, parce que la culture physique, ça se vit à 20 ans, mais ça se vit pour moi aussi à 30, à 40, à 50. J'ai encore 10 belles années devant moi, facilement de progression, et je suis pressé de voir où l'avenir va m'emmener. Mais pour le coup, pas spécialement de choses que j'aurais aimé changer dès le début. Non, j'ai vraiment apprécié tout ça, et je suis très nostalgique de toute cette zone un peu où t'as cette passion qui est tellement forte que tu ne jures que par ça. Maintenant, bah, bien, il y a aussi d'autres priorités dans la vie. Le sport n'est plus central, plus autant qu'avant en tout cas. Puis c'est très bien comme ça aussi. Mais voilà, non, franchement, je change rien à toute cette époque-là. C'était magique.
Ok, deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor qui l'est encore aujourd'hui?
Oui, j'ai eu beaucoup de modèles et de mentors au cours de ces différentes années, et je pense qu'actuellement, la personne qui pour moi me soutient le plus et un vrai modèle, c'est Yann Maradan, hein, que tu pourras peut-être d'ailleurs faire un podcast, ce sera intéressant d'en faire avec lui, qui est quelqu'un de très intéressant, qui est quelqu'un d'un peu plus jeune que moi et qui est fascinant, qui a vraiment un physique à la Zayn et qui a une maturité autant sur son expérience de compétition, sur son parcours et sur sa vision des choses qui est exceptionnelle. Pour moi, c'est un vrai mentor. Après, bien entendu, j'ai des modèles comme Frank Zane, comme Tom Platz, comme Arnold, qui sont des gens qui me passionnent autant sur leur physique que sur leur mentalité. Mais bien entendu, c'est un peu plus difficile de les considérer comme des mentors, étant donné que j'ai pas de relation personnelle avec eux, si ce n'est Tom Platz, avec qui j'ai des projets récemment et que je commence à connaître un petit peu. Mais
Tom
voilà.
Platz.
Ouais, tout à
Ah
fait, c'est
oui,
un
quand même.
culturiste des années.
Ah oui, bah oui.
Tu
Oui,
connais?
qui a
Ok.
des jambes, qui a des jambes
Ah
énormes.
bah ouais, des jambes qui étaient au-dessus de tout le monde et même encore à l'heure actuelle. Donc oui, en fait, je propose des podcasts avec des podcasts live avec Tom Platz par groupe de 5 personnes en fait. Donc, si des gens sont
Mais
intéressés, ils
Tom
connaissent.
Platz ne parle pas français, si.
Non, il parle pas français, c'est en anglais en effet.
Voilà.
Il
Ok.
faut pouvoir
Et
parler
tu.
anglais. C'est d'ailleurs le problème que j'ai avec ma communauté, c'est que les Français ne parlent pas trop anglais. C'est un peu
Non, non, non.
problématique.
Oui, tout à fait. Et tu m'as dit donc Yann Maradan.
Oui.
Maradan, peut-être comment on dit?
Ben, c'est en fonction des goûts.
Ok.
Alors, dans le
Ok.
milieu, on l'appelle le loup de l'Est ou Yarnold. Hein,
C'est vrai qu'il est. Il est je suis en train de regarder là. Il a l'air d'avoir un physique assez fou aussi.
il est exceptionnel. Alors là, par contre, c'est encore un autre niveau de moi, mais en effet, c'est un athlète naturel, absolument. C'est l'athlète naturel le plus exceptionnel que je puisse connaître, j'ai pas peur de le dire. Par contre, c'est vrai que bon, ben, c'est toujours difficile à croire parce que là, c'est vraiment un niveau exceptionnel.
C'est vrai que à le voir, comme ouais, effectivement,
Ah bah ouais, tu sais.
comme diraient certains, le doute pourrait être
Et
permis.
bien sûr, et c'est pour ça que je t'invite à pouvoir en parler avec lui sur un podcast parce qu'il sera ravi de le faire et puis tu pourras
Ouais.
comprendre un peu la mentalité. Et puis voilà,
Eh
après il
bien,
n'y a que
écoute,
le connaître qui permet.
volontiers. Ouais. Je me note parce que je ne connaissais pas. Alors, je connais pas tout le monde, et ça c'est sûr, mais non, je n'avais pas entendu parler. Donc, je vais aller voir ce qu'il fait un petit peu. Je suis très très curieux. Effectivement, son physique est assez impressionnant pour quelqu'un qui de plus serait naturel. Troisième
Et oui.
question, est-ce que il y a un livre qui t'a marqué particulièrement? Ce n'est pas forcément du body, enfin c'est pas obligé de se sortir un livre de musculation, que tu as envie de recommander aujourd'hui sur le podcast, peut-être nutrition ou d'autres, ou même un roman, hein, tout fonctionne ici.
J'en ai deux. J'aurais Total Recall. Total Recall, c'est l'autobiographie d'Arnold Schwarzenegger. Ouais. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce livre m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que c'était que l'ambition, en fait, en dehors du bodybuilding. C'est-à-dire que quand on lit que à 25 ans, donc à l'âge que j'avais quand j'ai lu le bouquin, il était en train d'acheter plusieurs propriétés, qu'il était Mister Univers, qu'il allait dans des soirées pour pouvoir être avec Clint Eastwood et des gens du cinéma parce qu'il voulait être acteur. Quand on voit que voilà, en fait, quand on voit toute son évolution, il détaille tout. C'est hallucinant et ça fait du bien en fait dans un monde où les ambitions sont tronquées la plupart du temps et où on entend trop souvent mais non, ça c'est pas possible, etc. De voir tout ce qu'il a fait, de voir à l'âge à lequel il le fait et la détermination, la remise en question qu'il a constamment. Ça, c'est un gros bouquin, mais c'est fascinant, vraiment fascinant. Pour moi, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a donné envie de voir beaucoup plus loin que mes propres ambitions. Et après, ce serait c'est un peu particulier, c'est des audiobooks, en fait. Hein. Ça, c'est des audiobooks de Jim Rohn. Jim Rohn, je sais pas comment on appelle ça en français, un motivateur, en fait. C'est quelqu'un qui parle sur du développement personnel. Comment?
Un peu comme un Tony Robbins, quoi.
Exactement. En fait, c'était le mentor de Tony Robbins. Et pour moi, c'est quelqu'un qui m'a vraiment apporté énormément à travers ses audiobooks qui sont très, très basiques, très simples, mais qui apportent une mentalité, qui apportent une idée pour voir les choses, pour se gérer dans la vie, se gérer sur évoluer dans son environnement professionnel, évoluer financièrement, ce qu'on attend de tout ça. Et c'est des choses qui m'ont vraiment, il y a 25 ans, donc il y a 2 ans, complètement changé ma mentalité et qui en 2-3 ans déjà, parce que j'ai 27 maintenant, à peine 2 ans, ont énormément changé de choses dans ma vie et ça a été des gros gros déclics pour moi. Donc,
et tu penses à un livre particulier de Jim Rohn là, j'ai pas...
Alors en fait il y a énormément d'autres, il y a 2-3 livres audio de lui qui se rapprochent. Je me souviens plus des noms parce que je les ai tous faits, mais j'ai plus les noms exacts, mais peu importe lesquels, une fois qu'on a accroché, je crois que c'est Change Your Habit of Life ou un truc comme ça, changer ses habitudes de vie les 7 piliers du succès. C'est des trucs un peu bateaux sur les noms, mais le personnage est fascinant. Ça, en fait, écouter sa voix, il a vraiment quelque chose dans sa voix qui fait qu'il est bon pour ça, en fait, et le message qu'il véhicule. C'est quelqu'un qui est décédé maintenant, qui était âgé déjà à l'époque où il a fait ça, et je trouve que ça lui donne, c'est pas quelque chose de marketing, c'est complètement gratuit, vous pouvez les trouver sur YouTube, et on sent que c'est pas marketing, et ça change de ce qu'on voit actuellement, et c'est vraiment des choses intéressantes, vraiment. Je te conseille déjà de toi éventuellement de les écouter et pour toutes les personnes intéressées de les écouter.
Très bien, je laisserai bon, ça dans la description. Si je trouve 2-3 livres, je glisserai les noms dans les notes de l'épisode. Merci Jordan d'être passé sur le podcast, d'avoir partagé ton expérience, ton expertise aussi sur la nutrition, sur le bodybuilding, hein, c'était très intéressant. On te retrouve bien évidemment sur ta chaîne YouTube que je laisserai dans les notes, ton Instagram. Ton Facebook peut-être, où c'est qu'on peut te retrouver à part ces
honnêtement médias. Principalement Instagram, parce que je suis dès que j'ai une vidéo YouTube je la partage sur Instagram. Là où je suis le plus active, la plateforme où c'est le plus intéressant de me suivre, ça reste Instagram, soit au niveau des stories de mes posts. Je discute beaucoup en plus au final sur les posts, je l'utilise pas uniquement comme une plateforme visuelle mais vraiment comme une plateforme d'échange avec ma communauté. Donc, en effet, pour les gens qui ont envie de jeter un petit coup d'œil, c'est plutôt sur Instagram, sur Jordan Béjoli.
Parfait, bon ben c'est clair, hein. Ça sera le premier lien dans la petite section contact Jordan, ça sera le lien de ton Instagram. Merci, est-ce que tu as peut-être un dernier message ou une dernière chose à vouloir, message à faire passer avant qu'on s'arrête ici et qu'on libère un petit peu tout?
Ouais, simplement, déjà merci aux personnes qui ont pris le temps d'écouter ce podcast de plus d'une heure, hein, quand on discute à chaque fois. Moi je suis une pipelette, hein, faut pas m'en vouloir, mais voilà, de rester vraiment, retrouver la connexion avec soi, je pense que c'est la phrase et le mot à retenir, l'idée à retenir de ce podcast, que ce soit même pour la culture physique ou plus généralement pour tout dans la vie, que ce soit au niveau de la nutrition et autres. Ne vous attendez pas à trouver les recettes miracles et surtout ne dépensez pas votre argent bêtement dans des compléments miracles et dans des solutions miracles. Prenez le temps d'apprendre, prenez le temps d'essayer vous-même, hein. Je pense qu'il faut essayer. Bien entendu, il faut se former, mais il faut d'abord essayer, ressentir. Et la culture physique m'a apporté énormément dans ma vie et m'apporte toujours énormément aujourd'hui sur beaucoup d'aspects. Donc vraiment pour les gens qui ont été bloqués comme j'ai pu l'être plus jeune, de sauter le pas, de se dire ok, je peux essayer, je peux essayer voir comment moi je le ressens, et on n'est pas obligé d'être un bêta musculeux qui ne pense à rien d'autre que ses muscles quand on fait du bodybuilding. Et j'aimerais que ce sport soit, cette idée, cet art soit ouvert à beaucoup plus, à un monde beaucoup plus vaste. Et c'est vraiment mon life goal, tu vois, c'est de pouvoir partager ça avec un environnement bien plus vaste que les adeptes de la culture physique.
Bon, et tu y contribues à mon avis très largement. Très bien. Ne quitte pas de suite l'onglet avant de. Enfin, ne quitte pas l'onglet dans lequel on est là, parce qu'il y a un petit chargement qui est fait, je préfère le dire avant, parce que voilà, ça intéressera personne. Merci à toi, Jordan. Je te dis à très très bientôt.
Merci à tous, merci Jérôme.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, partagez ce podcast à quelqu'un de vos amis qui serait intéressé par les thèmes de cet épisode ou de l'émission en général. Vous pouvez également le partager sur vos stories Instagram si vous avez un compte. Et n'oubliez pas de m'identifier dessus, je pourrai repartager en suivant sur mon compte. Ceux qui veulent vraiment me filer un petit coup de pouce supplémentaire et soutenir l'émission, vous pouvez me laisser une évaluation de 5 étoiles sur l'application Apple Podcast qui se trouve sur l'iPhone. Vous pouvez aussi accompagner cette évaluation d'un commentaire. Ça sera le top du top. Donnez-moi juste votre avis sur l'émission. Il y a pas mal de nouvelles étoiles ces derniers temps. Et donc, je vous remercie tous. On va finir par aller chercher Jean-Claude Van Damme. Je l'espère pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Mikoser. Et comme toujours, vous avez dans les notes de l'épisode le lien vers la lettre biomécanique que vous pouvez retrouver à biomecaniquepodcast.com/lettre. Vous pouvez encore vous inscrire, vous ferez partie de mes contacts privés et vous recevrez l'épisode de la semaine directement dans votre boîte mail, accompagné de la lettre biomécanique une fois par mois où je reviens sur mes astuces, mes conseils, mes réflexions, un petit peu d'actualité aussi pour vous aider à mieux comprendre votre corps, le fonctionnement de votre mécanique, mais aussi vous permettre d'améliorer votre activité sportive, d'avoir moins de douleurs, de guérir plus facilement de blessures et d'être en meilleure santé de manière générale. Je vous laisse aller regarder ça, c'est biomecaniquepodcast.com/lettre. Merci pour avoir été là jusqu'à la toute fin et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Biomécanique. Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.